Quand on prononce le mot d'industrie, a priori, on se dit que ça ne nous concerne pas, que ça ne va pas être intéressant. Et pour une bonne raison, c'est que ça fait des années qu'on a désindustrialisé la France. Et ça, ce n'est pas sans conséquences. En réalité, ça a des conséquences majeures dans nos vies quotidiennes, ça a des conséquences majeures sur le long terme, ça a des conséquences majeures sur l'écologie, ça a des conséquences majeures sur notre position géopolitique pour la France. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anaïs Voigt-Guillis, qui est une chercheuse en géopolitique, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Vers la renaissance industrielle », qui est un essai. Et ensemble, on va parler de l'industrialisation et plus spécifiquement de la désindustrialisation de la France. Et vous allez voir, en fait, d'un sujet qui a priori peut sembler un petit peu difficile, Anaïs a vraiment cette capacité à le rendre passionnant. Et j'espère que cette conversation va autant vous intéresser que moi, elle m'a passionné. Je vous laisse l'écouter. Allez, v'lan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Anaïs.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Je suis plutôt très en forme aujourd'hui, en ce début d'année un peu gris.
Un peu gris, c'est vrai, malheureusement. On va parler d'industrie, et on va parler de industrialisation, mais surtout de désindustrialisation. Peut-être que pour débuter, une question qui est relativement simple et en même temps qui est essentielle, c'est quoi l'industrie ?
Ah, c'est une vaste question. Parce qu'en fait, il y a des débats pour définir aujourd'hui ce qu'est l'industrie. L'industrie, on considère qu'en général, c'est des procédés de transformation de la matière première, dans le but de produire des produits finis, du coup. Mais il y a tout un débat sur quelle est la frontière de l'industrie aujourd'hui. Et notamment, c'est tout un enjeu statistique pour savoir quel est le réel poids de la désindustrialisation en France et le réel poids de l'industrie. Et souvent, quand on parle de l'industrie, le poids de l'industrie dans le PIB, on parle de l'industrie manufacturière. Mais il y en a qui plaident pour dire que l'industrie, bien, c'est plus large, avec tout ce qui va être traitement des déchets, de l'eau, l'énergie, etc. Et puis, il y a aussi tout un débat sur les services qu'on pourrait intégrer dans l'industrie, puisqu'on dit que l'industrie a tendance à devenir de plus en plus servicielle. Et il y a un certain nombre de secteurs qui ne vivraient pas s'il n'y avait plus d'industrie en France. Et là, on pourrait avoir une vision très, très large. Mais la définition au départ de l'INSEE, c'est les procédés de transformation de la matière.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, justement, je crois que dans l'imaginaire collectif, autant au 19e, 20e, enfin, en tout cas début 20e, on était beaucoup dans une industrie transformative. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, on est allé vers plus une société de services et on a un peu délaissé, justement, on a désindustrialisé la France, puisqu'on on s'est dit, bah, en fait, on va produire en Chine, on va produire ailleurs. Aussi parce que l'imaginaire autour de l'industrie, elle était extrêmement polluante. Enfin, tu vois, c'était les usines, c'était les jobs d'ouvriers à la chaîne, etc., etc. On s'est dit, bah, ça, on va pas le faire chez nous, on va le faire ailleurs. Et finalement, on va se concentrer sur les services. Est-ce que ça, c'est la réalité de la situation aujourd'hui en France ? Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les conséquences de cette réalité. Bah, déjà, si c'est la réalité, et puis les conséquences après.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on va dire au tournant... En fait, la France, elle commence à se désindustrialiser à la fin des années 70. On voit l'impact sur la baisse de l'emploi industriel et la baisse de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut. Et c'est lié à une évolution du discours. On avait l'idée que, eh bien, une économie moderne, ça devait être une économie post-industrielle, plutôt tournée vers les services, et qu'on pouvait confier le fait de faire à des pays tiers. On se rend compte aujourd'hui que c'est une erreur, non seulement parce que, les pays qui sont assez innovants aujourd'hui sont ceux qui ont réussi à conserver une base industrielle assez solide. Je rappelle que la France est quand même le pays le plus désindustrialisé de la zone euro, quel que soit le périmètre qu'on regarde en termes de définition de l'industrie. Et il y a eu tout un travail en fait qui a été fait en amont, c'est le travail de certains sociologues, notamment de Touraine, qui vantaient ces mérites d'une société post-industrielle, en se disant que l'industrie n'avait finalement plus sa place dans la société. Et à travers ça, à partir du moment où on s'est dit qu'une économie mature n'avait plus besoin de son industrie, on a déjà laissé l'industrie péricliter, c'est-à-dire on a arrêté d'avoir une grande stratégie industrielle, on a maintenu quelques politiques industrielles, mais finalement plus de vision sur quelle devait être l'industrie qu'on devait développer en France, pourquoi on voulait une industrie, au service de quel projet de société. Et on a accompagné socialement le déclin de grandes industries qui avaient été les fleurons d'industrie française dans les années 50-60. Ça a eu des conséquences assez terribles à la fois sur les territoires, puisque les territoires qui ont été touchés par la désindustrialisation peinent aujourd'hui à rebondir sur le plan économique. Il y a eu des conséquences sur la souveraineté, dont on prend pleinement conscience avec la crise. C'est-à-dire, on sait qu'un pays ne peut pas être totalement indépendant, mais il y a ce qu'on appelle les dépendances subies et les dépendances choisies. Et en termes de dépendance, il vaut mieux avoir des dépendances choisies, savoir avec qui finalement on se marie, avec qui on crée de la codépendance, que de se retrouver dans une situation où finalement on est un pays qui bien s'approvisionne partout et perd petit à petit son rapport de force. Ça a eu aussi des conséquences en termes de formation, puisqu'à partir du moment où on a dénigré, alors on a dénigré l'industrie et pendant très longtemps on a dénigré de manière générale toutes les voies manuelles, même si l'artisanat est revenu un peu plus en grâce depuis quelques années, c'était les voies manuelles, c'était des voies de garage. On pensait qu'il valait mieux envoyer les jeunes générations vers des métiers de service, avec toutes les questions aujourd'hui qui se posent dans la société, hein, sur le sens du boulot. On a beaucoup de choses qu'on voit sur les bullshit jobs, etc. Mais c'est aussi lié à cette trajectoire. Et on a montré des images, donc ces industries qui ferment, de quelque chose qui était très polluant. Et c'est vrai que l'industrie a été polluante, mais aujourd'hui, on a considérablement évolué, notamment grâce à des standards socio-environnementaux très hauts en France, même parmi les plus hauts en Europe et assurément dans le monde. On a dit qu'elle était mal payée. Ce qui, objectivement, n'est pas vrai. Globalement, les salaires à qualification égale sont plus élevés dans l'industrie que dans les services, que c'était quelque chose de sale. Enfin, toutes les images d'Épinal qu'on pouvait avoir et qui ont été aussi alimentées à la fois par la science-fiction, à la fois par certains films comme le film Les Temps modernes de Chaplin. Et donc, il y a tout ce discours qui s'est fait. Et la dernière chose, c'est que en se désindustrialisant, on a confié aussi notre responsabilité environnementale à des tiers. C'est-à-dire, à la fois, on a eu le truc un peu égotique ou naïf de se dire, mais on peut très bien confier notre production, les tâches de production à des pays tiers, tant qu'on maîtrise l'amont et l'aval, c'est là où se produisent le plus de valeur, et donc on restera une économie capable de financer son modèle social, sauf qu'on se rend compte que les autres nations ont aussi des ambitions de développement, ont aussi l'ambition d'innover, d'avoir des stratégies de sortir. Par exemple, si on prend la Chine, c'est un pays qui n'a pas envie d'être considéré comme le pays atelier du monde aujourd'hui. Et donc, il a mis en place toute une stratégie pour assurer son indépendance, alors qu'il est plutôt dans une logique, voire d'autarcie. Mais on s'est quand même bien trompé sur les ambitions des autres. Et on n'a pas su voir quelles auraient pu être leurs ambitions industrielles, ou en tout cas, leur ambition de développement pour le pays. Et on s'est aussi déresponsabilisé sur le plan environnemental. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on consomme aujourd'hui... En termes de produits semi-finis, puisque la France devient de plus en plus un pays d'assemblage, on commerce beaucoup avec l'Allemagne, l'Italie, etc. Et en termes de produits finis, notamment dans tout ce qui est bien de grande consommation, on a beaucoup de choses qui viennent de l'Asie, notamment le secteur le plus connu étant celui du textile. Mais à travers ça, on a confié la responsabilité de nos choix à des pays lointains, en se disant que finalement, nos choix environnementaux, nous n'en étions plus responsables. Donc, on peut se targuer, par exemple, d'avoir une économie largement décarbonée. Oui, ce qu'on fait en France est largement décarboné, mais on importe des choses qui sont produites de manière assez calamiteuse. Et ça, on le fait sur l'étape d'approvisionnement, mais on le fait aussi en termes de déchets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a arrêté de produire, on a aussi arrêté de penser des produits dans leur capacité à être éco-conçus, donc dans le choix des matières, dans le recyclage et donc dans la gestion de nos déchets. Et la majorité des déchets aujourd'hui sont brûlés sur le territoire national ou sont envoyés dans des pays lointains, et certains sont en train de crouler sous nos déchets. Et ça, on le voit en Afrique, en Asie.
C'est ça.
Et tout ça, c'est aussi lié à la désindustrialisation, parce qu'on n'a plus pensé l'écosystème industriel.
Et en fait, si ça vient des années 70, c'était donc, j'imagine, Giscard d'Estaing,
oui,
qui, à l'époque, avait essayé de faire sortir tous les musulmans qui étaient venus, tous les Algériens principalement, qui étaient venus pour justement reconstruire la France, un poste après la guerre d'Algérie. Et donc ça va dans le même mouvement, j'imagine, c'est-à-dire qu'en fait, en voulant faire sortir les Algériens à ce moment-là, il a voulu aussi désindustrialiser en se disant, en fait, cette France-là, c'est pas la France que je veux pour demain.
Alors, je connais pas assez l'histoire pour apporter une réponse très claire là-dessus. En fait, Giscard d'Estaing, c'est un profil un peu particulier par rapport à ce qu'était De Gaulle ou Pompidou, avec l'idée, déjà, De Gaulle et Pompidou, on était vraiment dans la reconstruction de la France, l'idée qu'il fallait se redoter de compétences techniques et d'un appareil productif solide pour être indépendant face aux États-Unis. Et De Gaulle mise très clairement sur l'aéronautique, l'informatique avec le plan de calcul qui n'a pas été un succès avec le recul, et le nucléaire, donc l'énergie, et cette volonté d'être totalement indépendant des États-Unis. On a donc créé des grands champions nationaux, des grandes entreprises nationales qui n'ont pas su, à mon avis, vraiment se préparer au transfert vers l'Union européenne, avec tout ce que ça a sous-entendu en termes de modification des aides aux entreprises, en termes de nouveaux droits de la concurrence, etc. Et Giscard d'Estaing, il est plutôt vu comme un réformateur. Et il n'avait pas une vision aussi accrue du rôle de l'industrie dans un pays que ne pouvaient l'avoir ses prédécesseurs. Et puis on est dans un contexte qui commence à se tendre. C'est-à-dire on a premier et deuxième choc pétrolier, on a des barrières commerciales qui commencent un peu à tomber. On a la Chine qui est en train de s'ouvrir au reste du monde, hein, 1979 si mes souvenirs sont bons. Et donc on a des nouveaux territoires qui s'ouvrent, qui sont à la fois des marchés, mais qui sont aussi la mise à disposition d'une main-d'œuvre peu chère. Et là, le réflexe, sachant qu'il y a quand même des secteurs industriels, hein, notamment tout ce qui était dans les extractions de matières premières, etc., qui ont commencé à souffrir dès les années 60 par nos choix industriels. Mais on a pas su aussi se réformer. C'est-à-dire les entreprises françaises, elles n'ont pas su à un moment se moderniser. Pourquoi les Royaumes-Unis fait sa première révolution industrielle? C'est tout simplement parce que elle se rend compte que sur le tissage du coton, il y a une concurrence très forte du côté de la Chine et de l'Inde, avec des métiers totalement manuels. On invente le métier à tisser qui permet, eh bien, par l'automatisation, de réduire certains coûts et donc de regagner des parts de marché, d'être à nouveau compétitif face à ces pays. Et nous, on est un pays... Il y a un truc qui m'a marqué, qu'on m'a raconté quand j'étais petite. On m'a dit... pourquoi est-ce que la France a pris le coq comme emblème national? Et un truc dit, c'est parce que c'est le seul animal qui est capable de chanter cocorico les deux pieds dans la merde. Et c'est un côté un peu vulgaire, un peu terre à terre, mais c'est aussi ça, ça a été aussi ça fondamentalement. C'est-à-dire que la France a laissé détruire son héritage industriel et elle en paye aujourd'hui un lourd tribut. Et la capacité de rebond de notre économie, c'est-à-dire qu'au-delà de la désindustrialisation, c'est notre capacité à recréer de la valeur sur notre territoire. Et quand on voit les rapports qui succèdent sur on produit des choses en France et elles sont transformées ailleurs, les pays qui font ça sont des pays en voie de développement. Et d'ailleurs, les stratégies pour essayer de sortir de ces pays de cette situation, c'est d'arriver à leur permettre de constituer un tissu industriel. Et en même temps, on fait des choses fantastiques. Et on a des gens qui font des choses fantastiques, il ne faut pas non plus le nier.
Alors, peut-être qu'une question qui peut sembler idiote et en même temps qui est hyper importante, c'est en quoi c'est important pour les Français de se dire, finalement, est-ce que c'est produit en France, est-ce que c'est produit à l'étranger? L'important, c'est ma capacité à acheter, finalement. Et en quoi c'est essentiel? Alors, je pense qu'on a eu une partie de la réponse pendant la crise sanitaire, ce que tu disais, c'est-à-dire avec cette incapacité à produire des masques, cette incapacité à produire des vaccins, cette incapacité à tout faire finalement, mais de manière plus large, en quoi c'est important, autant à court terme et à long terme, parce qu'il y a aussi des impacts, tu parlais d'écologie, mais il y a aussi un impact, je crois, sur l'emploi, et donc du coup on pourrait réfléchir à, peut-être que ça te coûte moins cher à un instant T, mais à long terme finalement ça te coûte plus cher, parce que quelque part il n'y a pas d'emploi, enfin c'est toute cette articulation que j'aimerais bien que tu...
Il y a plein de choses à dire. Sur la première chose, c'est l'industrie, c'est la réponse un peu à trois questions. Donc, je disais, il y a la souveraineté, la capacité à choisir ses dépendances, et en tout cas, ne dépendre pas d'un pays tiers. La deuxième chose, c'est la cohésion sociale et territoriale, puisque l'industrie, on considère qu'un emploi direct dans l'industrie génère 2 à 3 emplois indirects, plus les emplois induits. C'est-à-dire que quand une industrie se développe dans un écosystème, c'est à la fois tous les emplois indirects qu'elle va créer nécessaires à son activité, ça peut être des emplois dans la maintenance, dans la logistique, etc. Et les emplois induits, c'est quand on a une usine dans un bassin de vie, on va peut-être avoir des commerces qui vont se réouvrir, on va peut-être avoir des postes administratifs qui vont être supplémentaires, puisque si, selon la taille de l'usine, on a des familles qui viennent, ça peut être des postes, des classes maintenues, ça peut être plein de choses qui font que l'industrie a une capacité d'effet d'entraînement sur l'économie que n'a pas forcément un autre secteur. C'est une capacité à innover, à exporter que n'ont pas les autres secteurs. Et la troisième raison, c'est la raison environnementale, c'est qu'on sait que produire sur le territoire français, avec un nécessaire effort de sobriété et de repenser les produits quand même, permet d'être plus vertueux sur le plan environnemental. Et donc quand on est à un moment où le réchauffement climatique devient quelque chose de vraiment critique, même si on peine à réagir, reproduire en France, donc avec des circuits courts, produire aussi en fonction de la demande, parce que plus on produit loin, plus les stocks pour l'entreprise et donc le risque d'invendu sont importants. Et donc pour le consommateur, il y a la question du pouvoir d'achat que j'entends, qui n'est pas totalement fausse. Il y a deux choses. Il y a à la fois arriver à passer d'un raisonnement en coût d'achat par rapport en coût de possession. Et ça, c'est une exigence aussi. C'est-à-dire que le Made in France doit devenir irréprochable. On ne peut pas se permettre de la non-qualité quand on est sur du Made in France. C'est-à-dire que j'achète peut-être quelque chose aujourd'hui pas cher, mais je vais avoir un temps d'usage moins long. Alors après, ça questionne aussi nos habitudes de consommation, nos choix, le fait qu'on est parfois habitué à avoir tout maintenant, échangé rapidement, et ce qui, dans le contexte environnemental, devient quand même compliqué, c'est-à-dire acheter pour ne pas utiliser ou acheter pour jeter, ce n'est plus, ça n'a jamais été, mais ça l'est encore moins responsable. Et pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le coût complet de possession, c'est-à-dire ne pas regarder uniquement le coût d'achat d'un produit, mais regarder tout ce que ça génère en termes de coûts liés à la non-qualité, de coûts liés au surstock, de coûts liés au transport, etc. Et on se rend compte que finalement, quand on est sur cette approche coût complet de coût complet de possession, c'est le TCO en anglais, Total Cost of Ownership, j'y arrive pas mieux, donc c'est très bien. On se rend compte que finalement, ça tend à relativiser le surcoût. Il y a aussi des phénomènes d'automatisation et je ne suis pas du tout contre l'automatisation. Je pense qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont plutôt puissants sur le plan industriel sont des pays fortement automatisés, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit l'Allemagne, que ce soit alors Corée du Sud, Japon, beaucoup plus automatisés que ce qu'on a en Europe, mais en Europe, l'Allemagne et l'Italie sont plus que nous. Parce que l'enjeu numéro un, ça reste d'être capable de créer de la valeur sur notre territoire pour financer notre modèle social. Et créer de la valeur d'une certaine manière, je le dis et je le dis de manière un peu provoque, si on crée suffisamment de valeur, on saura comment la redistribuer. Le problème, c'est quand on ne crée plus de valeur et qu'on veut maintenir nos standards sociaux. Là, c'est impossible. On vit dans une situation où on a un État qui s'endette et qui se retrouve dans une situation, que la dette n'est pas forcément mauvaise au demeurant, mais on se retrouve dans une situation où finalement, c'est le cercle vicieux et puis on n'arrive plus à sortir de l'eau et puis on est obligé de faire un certain nombre de coupes budgétaires, de revoir totalement, de repenser totalement notre modèle social. Et je crois que tout le monde y est globalement plutôt attaché. Donc, l'intérêt de l'industrie, c'est cette capacité à créer de la valeur et pour le consommateur de repenser un peu son approche. Et puis, par ailleurs, on a tendance à dire que le Made in France est beaucoup plus cher. Je suis pas sûre que ce soit le cas dans tous les cas. Enfin, il y a un certain nombre de cas où on se rend compte que le Made in France n'est pas forcément plus cher. Ça dépend aussi de ce que le client veut valoriser. Et que si je reprends un exemple très classique du textile, si je regarde à marque à qualité égale, si je compare un jean 1083 ou Dao avec un jean Levi's, le différentiel de prix n'est pas aussi important. Et donc la vocation de la France, mais je crois que fondamentalement la vocation de l'humanité, c'est aussi d'arrêter avec la fast fashion. Donc ça, tout ça pour dire que c'est lié, qu'il n'y a pas de réponse simple. Je ne suis pas sûre que j'ai forcément éclairé nos interlocuteurs. Mais il est évident, et encore, parce qu'avec l'impression 3D, maintenant on a une entreprise française qui arrive à sortir des pulls à 20 euros. Donc ce qui est quand même très compétitif par rapport à des marques asiatiques. Mais le Made in France, il faut toujours le comparer à qualité égale. Et quand on voit certaines grandes marques qui vendent des pulls de 100 ou 300 euros fabriqués en Asie, parce qu'elles doivent financer
un designer,
un designer enfin, les autres aussi, hein, mais leur système de marketing, les stocks, des systèmes de distribution qui ne sont pas les mêmes avec des boutiques physiques, alors que beaucoup de boutiques de marques françaises finalement ont assez peu de boutiques physiques. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui expliquent le coût. Et des choix de marge qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, c'est fait en Chine et on sait qu'on peut faire, face à ces grandes marques, des prix tout à fait compétitifs en France. Mmh. Il faut toujours regarder, ça dépend de ce qu'on regarde dans la chaîne de valeur.
C'est pensé à cette phrase qui dit que le produit le plus cher, c'est celui que tu jettes. Et en fait, tu vois, dans la fast fashion, tu as quand même beaucoup ce truc-là parce qu'en fait, il y a un coût d'usage hyper élevé dans la fast fashion. Parce que finalement, si tu utilises un produit, un t-shirt, une robe, un pantalon, peu importe, et que tu le mets deux fois et que tu le jettes, ou trois fois, ou peu importe, le coût d'usage, il est énorme en réalité. Ça me fait penser, si t'as écouté le dernier album de Relsan, tu t'as écouté
si,
ou pas?
Si, si, ouais.
Et tu sais, il y a cette chanson qui s'appelle Baise le monde, je crois, où il prend cet exemple justement de, tu vois, on lui dit, donc il parle d'un jogging, et donc son pote qui lui dit, mais il vient d'où ce jogging, c'est incroyable, et donc il explique le processus. Et en fait, la question qui est derrière, peut-être, c'est de savoir, mais comment on peut s'assurer que c'est fait en France? Parce que justement, dans la chanson, et c'est ce qu'il explique bien, c'est qu'à la fin, ils apposent bien le truc made in France, parce qu'il y a un moment donné, un designer, ou je sais pas trop quoi, où ils mettent un petit bouton à la fin sur en France, et donc du coup, ils ont cette appellation, mais comment on peut s'assurer que c'est fait en France?
Alors, c'est très compliqué. La traçabilité des produits est complexe et on peut avoir quelque chose qui va être fait en France, qu'on a pas mal d'entreprises françaises, mais avec des matières qui vont venir, qui peuvent venir de partout dans le monde. Et il est compliqué pour le producteur, par exemple, qui va faire une chemise ou un jean, de parfois connaître l'origine des matières sur les différentes étapes de transformation, ouais. Puisqu'on considère qu'il y a en général cette étape dans le textile. Maintenant, il y a des labels qui sont en train d'être développés. Je pense notamment au label qui est développé par France Terre Textile, qui permet d'avoir une traçabilité plus fine, en tout cas un pourcentage, une vision sur le pourcentage de ce qui est des étapes de transformation en France. Ça va aussi passer par une question réglementaire. L'Union européenne, par exemple, n'aime pas trop qu'on ait cette traçabilité globale, puisqu'elle dit il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Moi, je trouve que après la prendre à revers en me disant, mais en fait, pour que le choix du consommateur soit parfaitement libre et éclairé, il faudrait justement qu'il y ait une transparence totale sur les différentes étapes de transformation, qu'on arrive à constituer des bases de données à la fois par les intrants du côté des douanes, à la fois par des obligations de transparence à l'égard des fournisseurs. Donc, il y a des choses qui existent. Il y a aussi le label Origine France Garantie. Il y a quelques initiatives qui sont en train d'émerger. Je pense que ça passera aussi par une clarification de l'aspect réglementaire. Et puis, il y a aussi un aspect connaissance de l'écosystème du Made in France, parce qu'on ne sait pas tous tout ce qu'on sait faire en France. Il y a encore une diversité d'offres à construire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est finalement plus facile pour un homme de s'habiller en Made in France que pour une femme. Alors, d'un côté, passé pour quelqu'un de tout à fait matérialiste et tout à fait simpliste, mais quand on voit, et je ne parle pas en termes forcément de renouvellement de collection tous les ans, mais on voit qu'aujourd'hui, on a toutes les saisons, c'est pas le sens de mon propos, mais on voit qu'il y a quand même une diversité offerte en termes de mode féminine dans toutes les marques qui existent, qu'on a du mal encore à retrouver dans le Made in France, parce que il y a aussi des effets de volume, hein, c'est difficile pour une marque d'offrir une large diversité quand elle n'est pas sûre de vendre. Et donc, il y a des démarches qui sont assez intéressantes, je trouve, qui émergent. C'est toutes les marques qui vont lancer des productions à la demande, c'est-à-dire avec tous les phénomènes de précommande pour éviter d'avoir du surstock, qui vont aussi travailler avec leur base client pour définir les produits que les clients espèrent. Et puis, il y a aussi des marques qui appliquent une transparence totale sur la déclinaison du prix. Je ne sais plus si c'est Opal ou Démocratie qui fait ça, mais c'est deux marques de t-shirts. Je crois que c'est Opal. Où, en fait, ils ont envoyé une communication à leurs clients où ils disent voilà, un t-shirt, c'est tant. Voilà le détail en fait de tous les prix, ce qui permet aussi aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent derrière. Et on est sur des t-shirts qui sont sur des prix qui arrivent quand même à concurrencer certaines marques réputées et faites à l'étranger. D'accord.
En fait, dans le suivi, dans l'offre à la demande, ça se fait beaucoup déjà dans l'automobile, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures, elles sont faites en fonction des commandes, elles ne sont pas faites. Il n'y a pas de stock de voitures, si où je...
Ah si, il y a toujours un peu de stock quand même en automobile. Après, l'automobile fonctionne beaucoup à ce qu'on appelle en flux tiré. Donc, c'est-à-dire que quand il lance une production. Ils le font, en fait, ils tirent beaucoup sur leur sous-traitance, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas forcément certains stocks, notamment de composants chez eux, c'est les portés par les sous-traitants. Et quand ils lancent la prod, ils appellent les pièces auprès des sous-traitants. Et donc là, normalement, il y a pas de... Le délai est très court, ça se fait dans la journée. Mais dans les concessions, vous avez toujours, il y a quand même toujours un peu de stock. Après, on peut totalement personnaliser sa voiture aujourd'hui en moyennant des délais plus longs. Mais c'est un peu l'avenir. Le sujet, c'est que quand on va sur de la personnalisation très poussée, il y a des jeux d'ordonnancement de production qui sont assez complexes et donc qui sous-entendent quand même une capacité à automatiser le flux entre la prise de commande et l'ordre de production. Et on a en fait beaucoup d'industriels qui sont assez peu matures là-dessus parce qu'ils n'ont pas forcément fait l'investissement, ils ne voient pas forcément l'intérêt pour les clients, ils ne connaissent pas forcément les solutions. Et puis, les gens qui ont mis ça en place dans des unités de production ne sont pas forcément légion aujourd'hui sur le marché, en tout cas pas forcément beaucoup être disponible, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours une pénétration suffisante, notamment auprès des PME et des ETI. Et après, il y a des effets sectoriels. Si je regarde l'automobile, c'est un des secteurs les plus automatisés, comme la chimie ou les semi-conducteurs. Et puis après, on a des secteurs qui sont beaucoup moins automatisés. Et quand on dit l'automobile, on pense là aux constructeurs. Après, il y a les sous-traitants de rang 1 qui sont plutôt automatisé, puis après on a rang 2, rang 3, et on peut avoir très très peu d'automatisation. Mmh. Et aussi des liens de dépendance souvent très forts. Quand vous êtes Valeo, vous travaillez avec un panel client très large. Quand vous êtes un sous-traitant qui fait par exemple les fonderies, vous êtes souvent en situation de dépendance économique, parce que là vous avez travaillé uniquement sur ce secteur et il n'y a pas forcément eu de diversification, pas forcément des clients qui ont aidé à cette diversification, etc.
Tu parlais tout à l'heure de la qualité, mais je me souviens de cette phrase de Tim Cook qui disait « Nos ordinateurs sont faits en Asie, pas tant parce que c'est moins cher, mais parce qu'en fait, aux États-Unis, on n'a plus du tout la compétence, en fait. » Et il y a aussi cette perte, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la qualité, je pense qu'il y a cette image d'Épinal, tu vois, pour reprendre l'expression de la Chine, c'est made in China, c'est forcément pourri, mais en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui en Chine et dans pas mal d'autres pays d'Asie où on a sous-traité justement cette partie entre guillemets main d'œuvre qu'on trouvait un peu trop sans doute sale pour les Français, aujourd'hui la qualité elle est supérieure à ce qu'on est capable de faire parce qu'on a perdu le savoir-faire, non?
Bah la qualité, la mauvaise qualité, elle est aussi liée au prix qu'on veut mettre dans un produit. C'est-à-dire, comme si je reprends l'exemple de la nourriture, je parlais de lasagne.
Pour information, il est 13h.
C'est ça. Les lasagnes, je peux avoir une composition des lasagnes qui va être très différente en fonction que je suis sur le premier prix ou sur quelque chose haut de gamme. Et c'est la même chose pour l'industrie. C'est-à-dire que je paye aussi la qualité, j'ai une qualité pour le prix que je paie. Et c'est aussi là que la désindustrialisation est assez dramatique, c'est-à-dire qu'en se désindustrialisant, on a arrêté de former, et même sur des métiers traditionnels de l'industrie. Aujourd'hui, on peine à trouver des chaudronniers soudeurs, des régleurs machines, alors qu'on en a besoin fondamentalement avant même de parler de tous les nouveaux métiers qui arrivent dans l'industrie, que ce soit la cybersécurité, tout ce qui est lié à la data, etc. Et on n'a plus su former. Enfin, tu sais, on forme, mais parfois moins bien. Et dans un phénomène où, certains n'hésitent plus à se localiser, la question va commencer à se poser pour les cadres. Hein. C'est-à-dire que les cadres, notamment dans les petits services, pensaient ne pas être touchés. À partir du moment où on autorise le télétravail à 100%, la concurrence, elle ne devient plus que française. C'est-à-dire qu'elle peut venir ou américaine ou anglaise, elle peut venir de l'ensemble du monde. Et ce qu'on voit, c'est que on a des industriels aujourd'hui qui disent « Oui, moi je vais chercher, un, mon marché, la France, c'est peu dans mon marché. Deux, les ingénieurs indiens ou chinois sont mieux formés, répondent mieux à mes attentes que les ingénieurs français. » Mais c'est pour ça que je dis que le constat est un peu dramatique. C'est-à-dire qu'on est un pays qui, par des petits renoncements, en fait, on n'a pas su... En se désindustrialisant, on n'a pas su réattaquer d'autres secteurs qui nous auraient permis de recréer de la valeur de manière similaire. Et on a perdu plein de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses exceptionnelles. Enfin, on a des leaders européens ou mondiaux dans différents secteurs qui ne sont souvent pas connus du grand public. On sait faire des choses. On a une intelligence collective qui peut être très forte quand on est capable de tout se mettre autour de la table pour s'entendre pour le chemin à tracer ensemble. Mais il est vrai aussi qu'on est face à une concurrence internationale et de plus en plus pointue, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la Chine, elle n'a plus l'ambition d'être un pays low cost. Donc, elle a envoyé des gens, des Chinois à être formés dans le monde entier. Et deux, elle a développé ses capacités de formation, comme elle a développé ses capacités de production. Et surtout, elle s'est dotée d'une vision. Tout l'enjeu, c'est la vision, en fait. C'est quelle est notre vision commune? Où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble? Quel projet de société on a envie de construire pour la France? Et une fois qu'on sera d'accord sur cette vision, on peut définir là où on veut être autonome, les industries qu'on veut reconstruire sur le territoire, et y aller, et mettre les moyens financiers sur la table. Je trouve qu'il y a un exemple que je voulais donner, puis que je viens d'oublier, c'est un peu ridicule, mais...
C'est pas très grave, mais si tu veux, je peux reprendre. J'allais te dire, j'allais donner un exemple par rapport à ce que tu disais sur la concurrence internationale, qui est sur des entreprises qu'on connaît assez bien, qui sont Google et Facebook, qui depuis le home office, enfin le fait qu'on travaille à la maison, ils ont dit, écoutez, vous savez quoi, vous pouvez bosser de n'importe où vous voulez, mais par contre, on vous paye en fonction du niveau de vie de là où vous vivez. C'est-à-dire que même des entreprises comme Facebook et Google, qui gagnent quand même pas mal d'argent, et évidemment, travailler dans la Silicon Valley, vivre dans la Silicon Valley, c'est extrêmement cher, donc les salaires suivent aussi pour des questions de concurrence, mais aujourd'hui, la décision qu'ils ont prise quand même l'année dernière, c'est de se dire, finalement, si vous décidez de vivre, je sais pas, en Thaïlande, ou si vous décidez de vivre dans un État aux États-Unis qui coûte moins cher, on va vous payer, bien sûr, ce sera toujours très bien, mais ça sera en fonction du niveau de vie. Donc, si vous allez à New York ou à San Francisco, et si vous allez, une ville XY aux États-Unis, ce sera pas le même salaire. Et donc, c'est aussi des choses qui peuvent se passer en France, en fait. C'est ça que tu décris.
C'est ce qui, c'est déjà des phénomènes qu'on a commencé à voir avec l'externalisation, la création de sens de services partagés en Europe de l'Est. Mais c'est des choses qu'on pourrait avoir sur les bureaux d'études qui existent et qu'on pourrait voir de manière beaucoup plus poussée. Et puis, à partir du moment où les usines ne sont plus localisées sur le territoire national, comme il y a un enjeu quand même très fort à pouvoir faire des échanges entre production et lieu d'innovation, eh bien, certains groupes peuvent être tentés, les gros groupes, les groupes internationaux vont être tentés d'aller localiser leur centre d'innovation, même si en France on a le CIR qui nous préserve à certains égards, pour être tentés d'aller localiser leur lieu centre d'innovation, donc leur tout ce qui va être ingénieur, bureau d'études à l'étranger. Et on peut le voir en fait sur plein de métiers, c'est-à-dire que là à un moment la question de à partir du moment où on s'est tous habitués à travailler à distance, la question de la frontière en termes de travail ne se pose plus forcément. Alors il y a des métiers bien entendu qui sont voués à rester sur place, jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas encore couper des cheveux à distance. Avec des tutos YouTube, on peut tout faire maintenant. Mais il y a un besoin cruel pour la France de se réinventer. Et ce qu'on peine à faire, ce que je voulais dire. Pourquoi je dis que c'est vraiment la question de l'industrie, il faut la lier à un projet de société. Quand on regarde ce qui sort, c'est ce rapport sorti récemment, que ce soit le rapport du GIEC, il y a un rapport de l'ADEME ou de RTE, où à chaque fois on a des scénarios, on se rend bien compte que selon le scénario qu'on prend, on ne va pas développer les mêmes industries, on ne va pas faire les mêmes choix. Et il y a un moment, une question aussi d'un pari collectif, de se dire, notre objectif c'est, même si... je sais qu'on n'est pas le pays, la France est plutôt vertueuse sur le plan environnemental, même si on peut la critiquer, il y a toujours mieux à faire. Mais il faut se poser la question du chemin qu'on prend ensemble. Et je pense que c'est vraiment des choix de société, parce que quand on regarde certaines prévisions qui sont faites, de dire, l'automobile et l'aéronautique vont plutôt être des secteurs décroissants, mais la rénovation énergétique va être un secteur qui va monter en puissance, etc. On oublie de dire, un, quels sont les coûts de cette transition, deux, l'acceptabilité sociale de cette transition, trois, les conséquences géographiques. Pourquoi l'acceptabilité sociale? C'est quand vous êtes ingénieur chez Airbus, vous n'avez pas forcément envie de vous reconvertir dans la rénovation énergétique. C'est des métiers totalement différents, donc il faut réapprendre. Les standards de vie ne vous seront peut-être pas les mêmes. Est-ce que les gens sont prêts à accepter et quel est le discours qu'on met derrière ça? Conséquences géographiques, quand on regarde l'automobile ou l'aéronautique, et surtout l'aéronautique, on est plutôt sur des phénomènes de concentration géographique. Et derrière, on parle de choses qui vont créer de l'emploi, mais de manière diffuse sur l'ensemble du territoire. Donc on a des potentiellement, si on suit ces logiques, des territoires qui pourraient rentrer en crise, parce que il y a certaines activités qui prennent énormément de place dans la valeur ajoutée du territoire, et d'autres qui, voilà, on va recréer à petite dose sur l'ensemble du territoire. Et donc question de la mobilité des gens qu'on peut se poser à travers ça. Et si on prend pas le temps de résoudre ces questions qui sont fondamentales, qui sont peut-être terre à terre, on va peut-être me dire que c'est pas l'urgence, etc. Mais pour beaucoup de gens, c'est aussi ça qui freine, et pour beaucoup d'entreprises, la transition. Alors on va stagner, et puis on se retrouvera en 2050 avec des ours blancs redevenus bruns qui seront sur nos plages en Nouvelle-Aquitaine, voire peut-être dans le centre.
Une des discussions que j'ai eues avec David Jayce, que tu connais, c'est de se dire finalement que une des choses qui va être essentielle, c'est effectivement de tout relocaliser, mais il y a aussi des questions par rapport à l'Europe, évidemment. Il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du Giscard d'Estaing, mais on a bien vu que finalement, que ce soit de droite ou de gauche, finalement, on n'a pas réindustrialisé la France, on a laissé faire, ou en tout cas, on a continué à désindustrialiser. Peut-être que tu pourrais expliquer l'exemple d'Axtom, je ne suis pas certain que tout le monde le connaisse, en tout cas parmi les gens qui nous écoutent, et voir jusqu'où ça va, cette désindustrialisation. C'est quoi? Alors, d'abord, peut-être parler de l'aspect des politiques. Pourquoi ils prennent pas la mesure, et où est-ce que, comment on pourrait faire, en fait, enfin, ou quelles décisions ils pourraient prendre pour faire changer le chemin? Et après, on parlera de l'Europe. Je pense que c'est un sujet aussi intéressant.
Ah oui, il y a un sujet, c'est enfin, moi, je suis pas convaincue. Enfin, on va pas tout relocaliser. En fait, encore une fois, ça dépend du modèle de société qu'on choisit, de nos besoins de consommation, de comment on gère nos rapports avec des grandes puissances géopolitiques comme la Chine, les États-Unis. Il y a pas forcément un intérêt à tout relocaliser sur le territoire français. Moi, je raisonne toujours plutôt en création de points de dépendance, c'est-à-dire repartir de nos avantages comparatifs pour remonter en amont, en aval, les chaînes de valeur, plutôt que de rapatrier sur le territoire des activités qui vont être plutôt des activités d'assemblage. Par exemple, les batteries pour véhicules électriques, c'est quand même plutôt des activités d'assemblage de cellules de batterie qui viennent d'Asie. Et donc, la création de valeur pour la France, elle n'est pas aussi importante que si on faisait les cellules de batterie sur le territoire national. Et puis, ça pose des questions sur jusqu'où on va dans la réflexion. Parce qu'en fait, si on veut tout relocaliser, et personne n'y croit, c'est aussi se poser des questions sur les approvisionnements en matières premières. Donc, soit être capable de sortir de l'usage de certaines matières premières qu'on ne sait pas faire en France ou en Europe, en inventant d'autres systèmes, soit les opérer en France, mais je pense que quand le débat sur les mines est quasiment impossible à tenir, soit continuer à s'approvisionner ailleurs, sauf qu'aujourd'hui, la Chine a une stratégie très forte de maîtrise des approvisionnements de matières premières et de contrôle, c'est-à-dire pays qui est largement dominant sur la majorité des étapes d'extraction et de raffinage des matières premières dites critiques. Et d'ailleurs, on a vu une entreprise américaine qui a eu une réflexion pour se dire comment être autonome. C'est aussi maîtriser ses approvisionnements. C'est le cas de Tesla. Donc, raisonner à partir de ces avantages comparatifs et de se dire quels sont les points bloquants dans la chaîne de valeur. Si je prends par exemple les semi-conducteurs, aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut remettre des usines de semi-conducteurs en France. Alors, on a quelques capacités de production avec entre Infineon et ST Microelectronics. Et la question, c'est mettre des fonderies pour faire des semi-conducteurs, mais quel type de semi-conducteurs? Pour quel marché? Est-ce que nous, on doit faire du moins de 5 nanomètres, sur lequel nos entreprises européennes ne savent pas faire? Donc, ça veut dire faire un partenariat avec Intel ou TSMC, le taïwanais. Ou est-ce que c'est se dire, on veut approvisionner, nous, on utilise plutôt des semi-conducteurs plus gros, donc on va plutôt développer ses capacités, enfin, maintenir ses capacités de production, puis faire des partenariats stratégiques avec TSMC ou Intel ou d'autres. Donc, ça, c'est un premier débat. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire, mais en Europe, on maîtrise certains points clés de la chaîne de valeur du semi-conducteur. On approvisionne nos entreprises, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit des petites entreprises françaises dont j'ai momentanément oublié le nom. D'ailleurs, on a une grosse capacité de recherche en la matière autour de Grenoble. On a des capacités en Allemagne. Est-ce que la réflexion, c'est pas plutôt de se dire, plutôt que de tout maîtriser, on va renforcer ce qu'on maîtrise déjà parce que les autres ne le maîtrisent pas. Et donc, ça nous rend incontournables. Et on va en jouer on va créer un rapport de force en disant, ok, si vous nous approvisionnez pas nos semi-conducteurs, même si c'est les gros trucs là que vous voulez pas faire parce que ça crée moins de valeur, et ben nous on bloque certaines choses en sortie de ligne de production et vous allez être bloqué. C'est ce type de réflexion qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi de se doter des moyens de faire des acquisitions stratégiques comme l'ont fait les États-Unis ou la Chine en Europe. Dire par exemple, il y a une entreprise stratégique dans le semi-conducteur qui s'appelle ARM, qui est une entreprise britannique à capitaux japonais, il me semble. Les États-Unis ont voulu la racheter. Et le Royaume-Uni a dit non, entreprise d'intérêt stratégique, pas de vente possible. Pourquoi est-ce que c'est pas une entreprise européenne qui se positionnerait à travers peut-être un fonds souverain européen ou fonds souverain national pour racheter ce type d'entreprise? Et c'est ces réflexions qu'on doit avoir à l'échelle nationale. Et puis toujours avoir une réflexion en termes d'écosystème. Là, on a un gros débat sur l'hydrogène. Le débat, il tourne beaucoup sur nos capacités de production d'hydrogène. Donc, produire les moyens de produire de l'hydrogène et développer les lieux de production pour l'hydrogène. Mais l'hydrogène, l'enjeu, c'est aussi l'utilisation par les industries lourdes, mais par les mobilités lourdes. Ouais. Donc les camions de demain, les avions de demain, même si en termes d'hydrogène, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un avion. Les bateaux pour le fret maritime, les trains. Mais ça, il faut développer des applications françaises. Et on en parle assez peu dans le débat public, parce que demain, je peux être le leader mondial de la production d'hydrogène. Si tous mes produits viennent du reste du monde, alors je ne vais pas résoudre mon problème de dépendance et de souveraineté, je ne vais pas résoudre mon problème de balance commerciale, et je ne fais que... Je serai leader quelque part, comme j'ai été leader dans la production d'électricité décarbonée, mais je ne serai pas forcément en indépendant là-dessus. Et donc, il faut mettre des moyens sur la table, mais ça sous-entend encore d'avoir une vision de là où on veut aller collectivement.
Ouais, parce qu'effectivement, on a l'air liquide. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que quelque part, tu vois, la discussion qu'on a avec David, c'est de se dire, autant sous De Gaulle, et je suis pas un grand fanat du retour à De Gaulle, parce que je sais que tous les politiques, ils font la référence et ça me fatigue, parce que ça fait une petite période maintenant qu'il est plus là. Mais il y avait un commissariat au plan. Et la Chine, justement, tu vois, où on prend référence. En fait, la Chine, c'est un pays où ils ont cette logique à très long terme. Et ça fait toute la différence, parce que j'ai l'impression que justement, ce qui nous manque en France, mais de manière plus générale en Europe, c'est une vision long terme. Est-ce que c'est aussi ça le problème? C'est-à-dire de se dire, en fait, chaque politique qui passe, ils ont des... Voilà, parce qu'en 5 ans, on ne peut pas révolutionner un pays, évidemment, mais ils apportent ou ils enlèvent, je ne sais pas, des petites choses, mais finalement, il n'y a pas de vision à long terme. Il manque cette vision ou un ministère du long terme, quoi, entre guillemets, c'est censé être le rôle...
Du plan.
C'est ça.
Ouais, non, je ne peux pas me lancer sur De Gaulle. J'ai beaucoup de respect pour De Gaulle et Pompidou, mais j'aimerais bien qu'on ait... d'autres références, parce que ça fait quand même pas trop rêver. Puis on est dans un contexte totalement différent. Enfin, on a une crise climatique qui est sévère. Enfin, ça me semble toujours un peu hors de propos. Et puis, les gens qui se réfèrent à De Gaulle ont souvent été aussi au pouvoir et donc avaient la capacité de faire autre chose et ne l'ont pas toujours fait. Donc, c'est bien mignon de se référer à quelque chose. Enfin, on peut toujours se référer de quelqu'un. Si on ne se réfère pas à certaines de ses stratégies, c'est plus dommageable. En fait, il y a la vision de long terme et il y a la vision systémique, globale. La Chine a en effet un effort de planification très fort, comme la Corée. La Corée a décidé, tous les 10 ans de miser sur un secteur clé comme elle avait fait sur l'électronique, ce qui lui a permis quand même de créer deux grands champions. Et il y a aussi cette vision globale comme peut l'avoir le Japon, c'est-à-dire une vision de l'industrie qui n'est pas seulement l'industrie, c'est-à-dire penser l'industrie avec quelles sont les conséquences en termes d'infrastructure. Je veux miser sur l'hydrogène ou je veux miser sur le véhicule électrique. Ça sous-entend de développer des infrastructures d'approvisionnement en électricité. Production, capacité à produire, s'assurer qu'avec nos installations de production d'électricité, aujourd'hui, on sera capable de produire suffisamment d'électricité pour toutes les applications qui vont utiliser l'électricité demain et dont la production d'hydrogène. C'est avoir un plan de développement des infrastructures, c'est-à-dire quand on regarde pourquoi le véhicule électrique peine à être aussi développé en France, c'est parce que tout le monde se dit, mais si je veux traverser la France, où est-ce que je vais recharger ma bagnole? Il suffit d'aller voir sur une aire d'autoroute en week-end de pointe, deux bornes, l'air pleine. Donc ça pose des questions pour les gens, la capacité aussi du réseau derrière, jusqu'au bout de supporter cette charge des voitures tout en ayant une activité normale. La même question va se poser sur l'hydrogène. C'est aussi les infrastructures du fret ferroviaire, fret maritime, donc les ports, la question des routes, de la logistique. C'est la question de la formation. Et c'est toutes ces questions qu'on doit se poser à travers la question de la réindustrialisation et qu'on fait assez peu. Et la vision de long terme qu'on peine à avoir, c'est-à-dire la capacité à anticiper aussi les raisonnements, les retournements de marché. Et qu'on n'a pas. Alors, on a remis le Haut-Commissariat au plan. Le problème, c'est que le Haut-Commissariat au plan, normalement, c'est quel est son lien avec les autres institutions ? Quel est son lien avec France Stratégie, qui est normalement l'héritière du Haut-Commissariat du Commissariat au plan de l'époque Gollon-Pompidolienne ? Quel est son lien, par exemple, avec France 2030 ? On annonce 10 priorités dans le cadre de France 2030. On veut mettre 30 milliards sur la table. Quel est le rôle du plan ? Il faut sortir le temps industriel qui est par nature long du temps politique. Et ça, on ne sait pas le faire, ce qui est bien dommageable. Et puis après, c'est s'assurer du lien entre nos ambitions industrielles avec nos ambitions environnementales, de rendre compte de ça. C'est-à-dire, quand j'en prends aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nos stratégies industrielles soient toujours bien liées avec notre stratégie nationale bas carbone. Et puis, la décarbonation de l'économie, c'est une chose qui est primordial. Après, il y a tous les enjeux de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, sur lequel on a assez peu de réflexion. Puis il y a les enjeux de choix de matière, de respect de la biodiversité, de l'environnement, parce que grosso modo, on peut demain décarboner totalement notre économie. On a quand même tellement flingué la biodiversité et pollué les océans que ça va quand même être un petit peu compliqué. Il faut aussi se poser ces questions et pas limiter le débat à la décarbonation comme on a tendance à le faire, et donc lier les deux. C'est-à-dire que nos ambitions industrielles sont bien liées avec nos ambitions environnementales, et c'est particulièrement vrai à l'échelle européenne, où la Commission nous a inventé un truc magnifique qui s'appelle l'autonomie stratégique, pour pas dire le mot souveraineté, globalement un gros mot visiblement. L'autonomie stratégique, très bien. Le Green Deal, qui va conduire très vraisemblablement à renforcer notre dépendance en termes de matières premières critiques à l'égard de la Chine. Et on parle d'autonomie stratégique. Et là, on se rend compte qu'il y a deux visions différentes. Et puis, quand on regarde ce que veut Margaret Vestager d'un côté et Thierry Breton de l'autre sur les semi-conducteurs, on se rend compte que déjà, au sein de la Commission, il y a des visions très différentes de ce que doit être l'autonomie et l'avenir du continent. C'est lié à des cultures différentes, c'est lié à une appréhension du monde qui est différente. Et on reste, même si l'Europe ambitionne de devenir une puissance géopolitique, de par sa construction et de par les gens qui la gouvernent, peine à avoir cette vision du monde. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui incapable d'imposer de la réciprocité dans l'accès aux marchés publics européens, on peine à contrôler les investissements étrangers, on reste les gentils. C'est-à-dire qu'on se dit, si on fait bien, les autres finiront par faire bien. Non, ça marche pas. Globalement, on a vu que ça marchait pas. Il faut s'imposer, mettre de la réciprocité. Ça veut dire qu'il faut pas créer de la guerre, il ne faut pas rentrer dans des phénomènes de guerre commerciale, peut-être comme l'ont fait les États-Unis, mais il faut avoir un discours ferme et qui soit porté par les 27 États européens.
Et justement, tu parles d'Europe. Là arrivent les présidentielles. Il y a de plus en plus de politiques qui se positionnent anti-Europe. Donc là, la France a pris la présidence. Je ne sais pas si tu as vu le débat autour du drapeau qui a été mis sur l'Arc de Triomphe, mais que ce soit Pécresse, que ce soit bon, évidemment Le Pen, Zemmour, moins étonnant, mais aussi Mélenchon. Ils se positionnent tous contre, en fait. Enfin, c'est très étonnant. Et du coup, moi, en tout cas, ça me surprend, mais je voulais savoir le rôle de l'Europe dans tout ça. Est-ce que c'est un poids ? Enfin, comment toi, tu l'envisages ?
Alors, je suis la génération qui a grandi avec Erasmus et l'Europe. Je me souviens, quand j'étais au collège, l'Europe, c'était le truc tendance. Si tu ne te sentais pas européen, t'avais raté ta vie un peu. Donc moi, je me sens profondément européenne, mais certains diront que j'appartiens à l'élite mondialisée qui n'a pas été touchée par la crise et que voilà. Il y a plusieurs choses. L'Europe, dans sa construction aujourd'hui, elle est inaboutie. C'est-à-dire, on n'a pas de souveraineté européenne, on a 27 souverainetés nationales, on a des délégations de souveraineté, mais globalement, l'Europe souffre en fait de ces rapports de force entre les États, hein, puisque on n'a pas du tout une situation harmonisée, on a un dumping social et fiscal qui est assez fort au sein de l'Union européenne, on a des États qui poussent certaines choses et on s'oppose à d'autres en fonction de leurs intérêts géostratégiques comme commerciaux, hein, la taxe carbone aux frontières européennes par exemple, ce n'est pas gagné quand on voit les positions que prennent les pays du nord de l'Europe. C'est quand même des gestions assez assez calamiteuse des crises qui ont créé un trauma collectif. Hein. La manière dont la crise a été gérée en 2008 et les conséquences sur la Grèce, ça contribue à renforcer le sentiment anti-européen. Et en même temps, même si on peut critiquer beaucoup l'Union européenne et qu'il y a plein de choses, l'Union européenne, ça reste les États membres. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont décidées par les États membres. Chaque État membre a plus ou moins son représentant à la Commission. Il y a des choses qui se passent en Conseil des ministres. Et donc, souvent, on accuse l'Europe. Mais en fait, l'Europe, elle n'est que le résultat de nos inconséquences, conséquences nationales. Alors, je vois maintenant, tout le monde appelle, beaucoup de gens disent il faut arrêter avec la supériorité du droit européen sur le droit national. Mais ça, c'est commencer à détricoter l'Europe. Et on peut critiquer l'Europe, on peut la remettre en question, on peut vouloir la changer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, notamment politique de la concurrence, des aberrations, enfin... Mais il ne faut pas oublier que souvent, l'Europe est le bouc émissaire de l'inaction et du manque de vision de nos responsables politiques. Il est beaucoup plus facile de dire « c'est de la faute de l'Europe » que de dire « eh bien non, c'est de la faute de mon action ». Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a certains pays, par exemple sur l'industrie, qui ont maintenu une base industrielle, même dans le contexte européen. Alors je sais que l'euro... par rapport à la France qui avait tendance à pratiquer des politiques de dévaluation de sa monnaie, c'est pas forcément idéal, qu'on n'a pas forcément su avoir le rapport de force qu'il fallait au sein de l'Union européenne. Mais je reste quand même convaincue que notre situation, elle est beaucoup liée à nos choix, que ce soit les choix politiques, que ce soit les choix des entreprises, et que dans un autre contexte, on n'aurait pas forcément su. Ou alors, on aurait gardé une base industrielle, mais on se serait quand même affaissé, puisqu'on n'aurait pas forcément misé sur les hautes technologies, etc. On a raté des tournants, on manque collectivement de vision et d'ambition. Et on parlait de l'imaginaire, je pense on a du mal à avoir un imaginaire commun aujourd'hui. Quand on se traverse la France.
C'est bien le problème.
Petite expérience récemment, plusieurs reprises. On n'a plus d'imaginaire commun et on n'a plus de rêve commun. Alors je ne dis pas que notre rêve, ça doit être de construire des avions, parce que je sais que ça a fait débat récemment, la réindustrialisation, elle passe aussi par la capacité de refaire nation et de recréer un discours qui nous entraîne tous avec du sens, c'est-à-dire peut-être pas être fier d'être français, mais en tout cas c'est la fierté de contribuer à quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne envie de nous lever tous les matins.
Et il y a une question sur l'Europe aussi que je me pose, enfin en tout cas moi c'est la réponse que je donne, c'est que peut-être, mais en réalité face à la Chine, face aux États-Unis, je vois pas comment la France toute seule pourrait faire mieux que l'Europe ensemble. Enfin, il y a aussi cette question-là, non, peut-être.
Alors, c'est un débat. Je ne suis pas convaincue qu'on saurait faire mieux seul. C'est-à-dire qu'on on a une capacité à l'échelle européenne à massifier les moyens et humains et financiers, mais qu'on exploite assez peu. Et en même temps, on pourrait dire, mais un pays comme le Japon, un pays comme la Corée du Sud arrive à être des puissances industrielles seules. Donc, ça conditionne des choix. Naturellement, j'ai envie de croire qu'on peut faire des choses à l'échelle européenne, parce qu'on a une taille de marché qui nous permet de créer un rapport de force, de tester des choses, etc. Mais il faut qu'on ait 27 pays qui aient envie de marcher dans la même direction. On n'arrive pas à se projeter de manière commune. On voit que tout... Et c'est difficile, c'était difficile. Bon, ils ont réussi à s'entendre sur le plan de relance, mais c'est difficile d'avoir une vision commune. On a quand même aussi des oppositions qui se créent sur la notion d'état de droit, sur ce que sont les valeurs européennes. Et donc là, le risque, c'est que comme on n'a pas une histoire assez solide, ce qu'il y a sur un billet de 20 euros, je n'ai pas de billet sur ma... Regardez, ça ne parle pas. C'est des figures qui ne parlent pas forcément à l'ensemble des Européens. Et on a du mal à créer des symboles européens, en dehors du drapeau, mais qui est très clivant dans tous les pays d'Europe. On a du mal à créer des symboles européens communs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un Français croise un autre Français à l'autre bout du monde, ça va devenir son meilleur pote? Quand vous croisez un Allemand à l'autre bout du monde, c'est un Européen, ça ne va pas devenir votre pote. Vous allez penser à ses chaussettes dans ses sandales.
le paysage qu'on dresse là, il est assez négatif. Est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir? Enfin, tu vois, des choses... Parce qu'en fait, bon, on a vite fait faire du bashing, tu vois, en particulier en France. Est-ce qu'il y a plein de... Déjà, il y a des choses, tu disais, où on est extrêmement fort. On a des super ingénieurs, en particulier en IA. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut s'appuyer et se dire, en fait, il y a quand même un truc qui va dans le bon sens, quoi.
On a, si on regarde sur le plan industriel, on a quand même aussi encore une culture industrielle. On a des grands groupes qui contribuent quand même à faire rayonner la France dans le monde, même si on aimerait qu'ils soient plus solidaires de leurs écosystèmes. Ils sont quand même des grands groupes qui ont aussi une capacité à innover. On a des startups. Mais alors là, le sujet, c'est toujours, est-ce qu'on peut leur donner de l'argent, notamment aux startups industrielles dans les phases d'amorçage? Mais on a des gens qui innovent sur le territoire. Et puis après, sur des industries, on a, j'aime bien donner cet exemple, on a quand même le leader mondial, par exemple, du Parc Med qui est en France. Alors certes, on va me dire, c'est plutôt une activité un peu d'assemblage qui s'appelle Flowbird, qui est une entreprise assez merveilleuse. Mais on a des entreprises qui maîtrisent des techniques de pointe, que ce soit dans les sujets de métallurgie, de mécanique de précision. On maîtrise encore beaucoup, beaucoup de choses en France. Souvent, on dit on ne sait plus faire. Si, on sait encore faire énormément de choses. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le savoir-faire repose sur des toutes petites entreprises qui servent des marchés plutôt restreints. Et l'enjeu, c'est aussi de faire croître certaines de certaines entreprises en leur donnant, en remplissant les carnets de commandes, ce genre de choses, et que les commandes ne soient pas forcément anecdotiques, parce que parfois, on se tourne vers elles pour de l'urgence ou de la petite série. Il y a tout ça. Puis, je crois quand même, depuis la crise, on a retrouvé une certaine envie d'innover, de faire en France. On a peut-être plus aujourd'hui qu'avant envie de bouger les lignes. Et puis la France dans le monde, ça veut encore dire quelque chose. Donc il y a bien sûr des raisons d'espérer. C'est vrai que dire qu'on dit tout ça, je suis un peu négative, ça ne met pas forcément de bonne humeur, là, surtout un 4 janvier. Mais on a des raisons d'espérer, de penser qu'on peut faire des choses. On a quand même su inventer le Caravelle, le Concorde, le TGV, les centrales nucléaires, quoi qu'on en pense du nucléaire. On est un pays qui, quand il sait s'entendre, sait faire de grandes choses. Mais pour ça, je crois qu'il faut réapprendre à travailler ensemble, à se parler, à casser les frontières habituelles, que les universités arrêtent de regarder bizarrement les entreprises, que les entreprises arrêtent de penser que les universités sont des gens qui ne font rien. On fait plein de choses à l'université. On a des centres de recherche fondamentale qui gagneraient à être traduits en application. On sait faire des choses et on a envie de faire des choses. Maintenant, il faut retrouver cette envie de le faire collectivement au service du rayonnement du pays. Et si c'est pas au service du rayonnement de notre pays, c'est au moins au service du maintien de notre modèle social.
C'est quoi la question qu'on te pose pas et que t'aimerais qu'on nous pose?
Ah, la question qu'on me pose pas, je sais pas, on me pose toujours trop de questions. Donc je sais pas s'il y a une question que j'aimerais pas qu'on me pose.
Non, que t'aimerais qu'on te pose, justement.
Oui, mais je sais pas s'il y a une question que j'aimerais qu'on me pose en particulier. Je sais pas, c'est une très bonne question. Bah, si, c'est peut-être ça la question que j'attendais. Non, je pense qu'il y a des questions qu'on commence juste à aborder, mais qu'on fait mal. Et moi, des choses qui me tiennent à cœur, c'est la notion d'imaginaire, la notion de rêve, c'est-à-dire la capacité aussi de s'extraire parfois de choses terre à terre pour se donner une capacité à se projeter. Alors, j'aimerais qu'on pose la question, mais j'ai pas forcément la réponse, ceci dit. Mais ça me semble important. C'est-à-dire, le rêve, on se dit, il y a quelque chose d'enfantin. Et en même temps, c'est souvent des grands rêves ou la volonté de répondre à des grands projets de société, des grands défis de société qui ont créé les plus belles innovations. Et pour moi, une société qui ne rêve plus. Et j'ai le sentiment que la France, en tout cas collectivement, a perdu cette capacité à se doter de grands rêves. Et bien, c'est une société qui se meurt, pour finir de vous donner une touche de joie et de bonne humeur.
Merci Naïs, on est ravis. En 2022,
ce début d'année. Non, mais c'est pas perdu. Je pense qu'on a un pays qui est en train de rebondir. La question, c'est qu'on n'a plus forcément le temps, à la fois par rapport à ce que font les autres, puisqu'on est en retard sur un certain nombre de secteurs, et à la fois parce qu'on a une question climatique qui pour laquelle on s'est dit les petits pas, ça allait marcher. On a essayé les petits pas, ça n'a pas produit ce qu'il fallait. Donc maintenant, c'est des grands pas, et des grands pas qui coûtent très cher. Mais il faut se doter de cette capacité à se donner des représentations collectives positives, à se projeter dans l'avenir. Et je pense que ça sera aussi rassurant, parce que on est une période où on est ma génération, mais je pense encore plus les générations après la mienne, où on voit beaucoup de gens qui sont angoissés sur la question du climat, etc. Donc ça prouve bien qu'on n'arrive plus à se doter de cette capacité de projection sur un futur désirable. et à bifurquer. Mais c'est aussi peut-être parce que ceux qui décident ne sont pas ceux qui auront assumé les conséquences.
N'est-ce pas? Mais cette idée d'imaginaire, elle est hyper importante pour moi aussi. Donc, je vois très bien. Et effectivement, c'est... En fait, l'imaginaire, avoir un imaginaire, une vision à long terme, on va dire, c'est le seul élément qui peut te faire faire des efforts à court terme. C'est-à-dire que tu dois pouvoir, enfin, je pense en tant que peuple, mais ça marche aussi au niveau individuel, on pourrait se dire, j'en sais rien, un truc hyper bateau aussi, on va rester dans les exemples bateaux, mais tu vois, de te dire, bah tiens, j'ai envie d'avoir ce corps-là, mais bon, ça va me prendre X temps, bah du coup, ça va justifier les efforts de sport, de nutrition entre les deux. Et peut-être que, oui, ça sera des contraintes dans une certaine mesure qui vont à la fin devenir un plaisir pour que, in fine, j'ai ce corps-là. Bon, je dis pas que c'est l'exemple le meilleur, mais en tout cas, c'est juste pour dire que ça peut être intéressant d'avoir cet imaginaire, en fait, de modifier l'imaginaire.
Mmh. En fait, ça t'oblige à poser des... Déjà, t'as une vision de là où tu veux aller, donc de poser des jalons sur les différentes étapes pour y aller, d'essayer de mesurer l'atteinte de tes objectifs. Et en fait, la question pour l'imaginaire, elle est toujours liée au pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je fais... Qu'est-ce qui me pousse à agir? C'est ma raison d'agir et qui s'applique très bien, aussi bien pour une société que pour une... Pour une entreprise, je crois plus à la raison d'agir, mais ça c'est les gens de l'économie sociale et solidaire qui m'ont poussé pas pollué, en tout cas qui m'ont incité en bien à aller sur cette réflexion de raison d'agir, la raison, pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on veut une industrie? Pourquoi est-ce qu'on veut, on veut transformer notre société? Et après, comment? Si on se demande pas pourquoi on fait les choses, mettre un comment, c'est toujours plus simple de dire comment que pourquoi. Et puis, quand on a défini le pourquoi, on évitera peut-être des abandons, ce que j'ai pas répondu sur Alstom et Siemens tout à l'heure. Il y a eu Alstom et Siemens, mais Alstom et Vie, c'est-à-dire la vente d'une partie des activités, il y a eu deux ventes, hein, il y a des experts, plus grands experts que moi du dossier, mais il y a eu les choix faits fin des années 90 et puis la vente récente de la branche énergie d'Alstom au groupe GE, ce qui pose des questions, parce que à partir du moment où on veut se redoter d'une puissance nucléaire, il y a aussi le fait de savoir construire ces centrales et on a perdu certaines compétences. Et là, on parle de racheter une partie des activités, mais ça pose beaucoup de questions de est-ce qu'on va racheter les brevets, est-ce qu'on va juste racheter une activité de production. Et GE a aussi fait le choix de se désengager presque complètement du site de Belfort là-dessus. Et alors, si je peux me permettre trois références sur le sujet, ce sera sûrement mieux. Il y a un très beau documentaire qui est sorti il y a très longtemps et que je conseille à toutes les personnes qui ont une vision assez négative des syndicats, parce qu'on a une vision assez négative des syndicats en France. C'est Belfort, les enfants du Lion. C'est un documentaire qui a été fait sur France 3 sur le combat des salariés de Alstom pour essayer de trouver des solutions pour maintenir une activité sur le site de Belfort. Et qui, pour tous ceux qui doutent de l'utilité des syndicats, les réconciliera sûrement avec et montre tout ce combat. Il y avait un autre documentaire qui avait été fait sur Alstom, dont j'ai oublié le nom. Et sinon, je renvoie un article qui a été écrit par Nicolas Moinet et Olivier Coussy pour la Revue française de gestion sur, je crois, c'est Alstom, tension du domaine de la manipulation, de la domination. Enfin bon, en tout cas, avec Olivier Coussy et Nicolas Moinet, on peut le retrouver facilement. Je mettrai en lien.
On mettra en lien, exactement.
Et qui montre en fait tout ce qu'on a laissé partir et le fait qu'on peine à avoir des stratégies d'intelligence économique, de diplomatie économique, ce qu'on a aussi vu avec le cas des sous-marins très récemment. Mmh. Et Alstom, c'est assez symptomatique parce que ça s'est produit maintenant il y a plus de 5 ans. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le discours. Donc il y a un vrai trauma national et le sentiment d'avoir perdu un fleuron. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, quand les gens se sont mobilisés derrière le drapeau de l'Union Jack, c'était souvent pour sauver des fleurons industriels, avec le fait qu'on ne voulait pas que les fleurons industriels britanniques soient vendus, et d'autant plus pas forcément vendus à des groupes indiens ou chinois, pour un certain nombre de schémas de représentation collective. Et je crois que c'est un peu ce qu'on vit avec Alstom. C'est le sentiment d'être allé trop loin, d'avoir perdu une part de notre souveraineté, mais surtout une part de notre fierté nationale. Et donc, notre capacité à rebondir, c'est important, la représentation, la manière dont un pays, son peuple, sont capables de se projeter dans le monde. Et je crois que il y a un profond sentiment de déclassement en France. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que surfent les partis d'extrême droite, de dire voilà, on est déclassé, on va rebondir. Bon, je pense que leurs solutions pour rebondir sont pas les mieux. L'autarcie, ça marche pas très bien. Mais après, on peut tester si. Enfin, j'espère pas, parce que là, on arrive près d'avril 2022, donc on va pas tester ce genre de choses. Ils peuvent tester tout seuls au loin. Quoi.
C'est ça, ils peuvent tester chez eux dans une maison à la campagne.
Voilà, dans leur salle de bain, voir ce que ça donne.
Pour voir. Ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ah, je veux claquer la porte à tous les gens qui nous font des références à des vieux, qui ont été des personnes lumineuses, mais maintenant il faut se créer de nouveaux référentiels. Ça ne veut pas dire qu'on doit les jeter à la benne, mais il faut créer d'autres choses. C'est-à-dire, il faut aussi donner de nouvelles aspirations aux jeunes générations. Et ouvrir la porte, bah, je pense à un truc hyper cucul à praline, mais à un avenir rayonnant pour tous nos concitoyens. En tout cas, nous doter d'une nouvelle capacité à rêver, à construire, reconstruire ensemble le pays, tout en je pense, en recréant un compromis national autour de l'industrie, mais aussi une manière de revivre différemment avec la nature et notre environnement.
Parfait. Merci beaucoup, Anaïs. Non, mais si, c'est super. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !